月吧。
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Et comme d'habitude, on va faire un petit tour dans l'esprit ludique, dans le domaine geek. Nous allons tout d'abord nous attarder sur l'agenda. Alors, pas forcément des événements comme on peut faire d'habitude, mais par exemple, des sorties de jeux gratuits. Et c'est toi, Dominique, qui a remarqué sur Epic Games
que tu suis chaque semaine. Toutes les semaines, j'ai pas une alerte, mais presque. Je dois rien, c'est con là, toutes les semaines, ils donnent des jeux gratos. Alors, et là, ils ont régulièrement donné des jeux assez sympas. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Civilization 6. La semaine d'avant, qu'est-ce qu'on avait eu ? GTA 5, c'était GTA 5 à 15 jours. Cette semaine, on a eu Borderlands The Anthem Collection, ce qui inclut Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel. Alors c'est compliqué parce que Borderlands, il y en a tellement, qu'il y a tellement de contenu additionnel que ça, c'est pas évident de s'y retrouver.
Bah, le Borderlands Pre-Sequel, c'est juste une aventure qui se passe sur une des lunes du monde de Borderlands, qui est entre le 1, le 2 ou le 3 de maintenant, c'est une autre histoire, c'est au niveau du lore que ça se passe. Mais le fait que tu pourrais jouer sur une lune avec les histoires de gravité, l'oxygène manquant, les nouvelles armes qui à l'époque étaient innovantes comme le fait
comme
de pouvoir...
Si le jeu n'était pas déjà assez...
Des nouveaux véhicules, enfin il y avait de quoi faire, même si le jeu était pas très bien... était très bien accueilli pour le moment, mais a été considéré comme un des pires de la série Borderlands. Donc alors que le 2 est très 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 bon.
Pour les personnes qui ne connaissent pas Borderlands, on a affaire à quel jeu ?
Alors l'univers, c'est du post-apocalyptique, on est un peu dans du Mad Max, et visuellement c'est du cartoon, on peut dire, c'est ce qu'on appelle
du cel-shading.
C'est une technique qui est un peu dessin animé, où les bonhommes sont contourés, c'est vraiment très sympa, et en plus ça tourne pas forcément sur des grosses machines ou des machines récentes, c'est ça qui est bien, et c'est un pur jeu d'action.
En FPS, donc c'est un peu un Fallout un peu plus rigolo.
C'est un mix de FPS et de, j'allais dire, jeu de rôle, mais...
Diablo, où il faudrait ramasser looter des armes de meilleur en meilleur et récupérer des meilleures armes. Et en plus, il y a une histoire derrière, c'est un autre très sympa.
Voilà, une sorte d'action RPG, comme on dit, où tu débloques des niveaux, et avec les niveaux, tu développes ton personnage, tu leur donnes des capacités. Et ce qui change du FPS, c'est que si tu fais un tir dans la tête, tu tues pas automatiquement, tu vas infliger des dommages, qui est le côté plus RPG.
Il y a plein d'armes différentes, il faut s'adapter en fonction des ennemis, etc. Et de toute façon, c'est l'occasion de tester, parce que justement, il est gratuit à partir Il était gratuit depuis à partir de jeudi jusqu'au jeudi prochain, et on peut déjà spoiler le jeu normalement gratuit de la semaine prochaine chez Epic. Ça serait Ark Survival quelque chose, le jeu de survie
avec des dinosaures.
Là par contre, celui-là, il faut une machine un petit peu costaud pour le faire tourner avec les réglages maximum, on va dire.
Mais c'est vrai que depuis quelques semaines déjà, le rendez-vous du jeudi pour télécharger les jeux gratuits d'Epic Games, ça fait plaisir. Le launcher où j'ai zéro acheté de jeu dessus et je dois avoir une vingtaine de jeux gratuits sur mon...
ça fait pour tout le monde ton disque dur parce qu'il commence à râler. Hein.
Ah ouais, mais t'as pas le temps d'y jouer à tous les jeux, hein, c'est comme pour Steam, mais t'as de bons jeux en téléchargement, ça il faut le voir.
Le prochain confinement.
Alors, tu citais Ark comme un jeu gourmand, mais est-ce que ça serait pas par une mauvaise programmation derrière, puisqu'il a quand même souffert à ses débuts.
Toute première version, effectivement, c'était un jeu très très gourmand, mal programmé. Je suppose que ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps.
En tout cas, on va le vérifier, mais gratuitement cette fois.
Exactement.
Et on parlait aussi de GTA V, qui... s'est mis également en mode gratuit, et ça a quand même perturbé un peu les serveurs de Rockstar.
Un peu, parce que moi j'avais jamais testé, donc effectivement quand j'ai lancé le jeu, j'ai dit « vas-y, installe-toi », il m'a dit « il n'y a pas de place sur le disque dur, il me faut 100 gigas ». Ah ouais, ok.
Même un peu plus que 100 gigas d'ailleurs.
Un peu plus que 100 gigas, ce qui est pas mal pour un jeu, on a vu pire, mais là c'est pas mal quand même.
Sauf que GTA V, comparé à d'autres jeux, hein, comme Ark ou Borderlands, lui n'a pas eu de version hackée vraiment connue ou en tout cas fonctionnelle. Ce qui fait que beaucoup de gens qui n'ont jamais voulu dépenser un sou dans le jeu vidéo, ou en tout cas le donner à Rockstar, cette fois-ci, c'est la première fois qu'ils avaient l'occasion de jouer à GTA V.
Le jeu avait déjà eu beaucoup de succès, donc beaucoup de gens qui l'avaient déjà GTA V, hein, qui l'ont retourné dans tous les sens, et ça fait longtemps qu'ils n'y jouent plus d'ailleurs. Mais là, c'est l'occasion. Et ça a eu tellement de succès, ce téléchargement, que d'ailleurs, au moment, le jeudi soir, où on est allé voir, les serveurs de Epic avaient planté. Ils sont repartis, mais avec des bugs. C'est-à-dire que moi, ma page s'affichait en anglais, mais j'ai eu de la chance, parce que chez certains, ça s'affichait en portugais.
J'ai eu le coup aussi, et en fait, la page de bugs se réinitialisait toutes les 10 ou 15 secondes environ, et ce qui fait que la langue changeait à ce moment-là aussi. Donc et j'avais après, la page d'erreur, je pouvais apprendre la langue en page d'erreur, c'était rigolo.
Mais une fois que tu avais réussi à dire à Epic, ça y est, je veux le jeu, ajouter-le gratuitement à ma bibliothèque, après il fallait télécharger le jeu. Et là, les serveurs ont eu une deuxième couche qui est tombée, et les serveurs de Epic sont en rade pendant un ou deux jours, mais ils ont réglé ça assez rapidement.
Après, ouais, excuse-moi, mais le fait que c'était énorme à télécharger, là, plus de 100 gigas, c'était aussi que c'était une version de luxe, avec comme si tu avais acheté le premium à l'époque.
Exactement.
Avec les plus millions de crédits, t'avais tous les DLC qui étaient sortis depuis, t'avais donc les derniers, le fait que tu devenais manager d'une société de brigands, enfin de truands, enfin c'est tout ce qui faisait les comment dire, la thune des youtubeurs de l'époque, où ils faisaient vraiment leur ou sur Twitch hein, d'ailleurs. T'avais énormément de choses dans ce pack.
En gros, pour résumer, il m'a fallu 3 jours pour le télécharger et l'installer, une demi-heure pour le configurer, etc. pour ma machine, et j'ai joué, et puis voilà, au bout de 3 minutes, j'ai dit, voilà, c'est fait. J'ai plus retouché depuis.
Alors, si t'avais l'occasion de rejouer, si tu devais choisir même un GTA dans toute la série...
Ah bah, c'est un que j'ai retesté, parce que il y a un des GTA qui a été donné gratuitement il n'y a pas longtemps aussi. Moi, j'avais un petit coup de cœur pour le Vice City. Oui, c'est Vice City, c'est ça. Non, Liberty. Oh, non. Oui, c'est Vice City, je crois.
Basé sur le moteur du 3.
Voilà, celui qui est sorti juste après le 3. À cause du scénario qui était. Alors, déjà, le 3, c'était vraiment. Le scénario était sympa et tout, mais c'était plus la surprise de la 3D qui nous avait. Mais dans le Vice City, il y avait vraiment un scénario de film et des références et tout, que j'avais, et des personnages que j'avais adorés.
Reynald ?
Moi, j'y ai très peu joué au GTA, quel que soit leur numéro. J'ai dû jouer 10 minutes à chacun et encore. Donc c'était pas vraiment mon truc, mais là le fait d'avoir téléchargé le 5 avec toutes les extensions possibles et imaginables, je me suis dit pourquoi pas maintenant, si ça tentait les potes et tout, pourquoi pas aller se refaire quelques soirées et vraiment s'impliquer un peu quoi.
Moi pour ma part, j'aurais bien aimé un remake, puisqu'on en fait partout des remakes maintenant de jeux vidéo, du 1
remaster, compagnie.
Une remasterisation du 1.
Quand tu dis le 1, c'est lequel?
Le premier.
Vu de dessus, en 2D.
En full HD 4K, ce que tu veux. Refaire ses missions.
Déjà comme ça,
il est bon. Écoute, pour le côté des nostalgies qu'on nous vend à longueur de temps, écoute, moi je le voudrais sur un GTA 1. Et surtout, parce que c'est un des seuls jeux, alors si je me projette à l'époque, qui avait dépassé les barrières au niveau des missions, et au niveau des points qu'on récoltait. C'est vrai que ça faisait polémique à l'époque, et c'était vraiment un jeu innovant pour ça au moins. Et les missions étaient excellentes dans le premier également.
Le 1 et le 2 visuellement c'était à peu près la même chose, hein. Et il y a eu aussi, j'étais à London, c'était la même chose, sauf que ça se passe.
C'est le 1 à Londres.
À Londres, voilà, très sympa aussi. Avec des petites voitures, des voitures un petit peu différentes, puisqu'on voyait des voitures anglaises.
Alors, pour revenir sur le 5 rapidement, moi j'ai plus joué la version online. Ce que j'avais pas vraiment apprécié dans le 5, c'est qu'on jouait 3 persos en fait, et qu'on pouvait même jouer des fois en même temps en faisant des switch. Et ça, j'ai trouvé que ça perdait un peu ce petit côté GTA où t'étais toujours le même personnage, qui te mettait un peu plus, je trouve, dans l'histoire.
Et il y a le 6 qui devrait pas tarder.
Alors, pas tarder, mais il a été déjà reporté, alors qu'il n'avait même pas encore de date.
Pas mal. C'est genre l'annonce, c'est... Alors, la date à laquelle le jeu aurait dû sortir, c'est le... C'est pas mal. C'est une nouvelle façon de présenter les jeux.
On comptait le sortir, mais en fait, ça sera repoussé. Je pense que ça sera du 2023 pour GTA 6.
Waouh.
Attends, tu parles aussi de la sortie PC ou de la sortie console? Parce que déjà, pour le 5, ça avait fait fureur.
Ah non, PC, bien sûr, 2058.
Je vois bien sorti PC 2028, console 2026. Ça va encore faire rager tout le monde.
Et on en avait déjà parlé, mais à confirmer. Mais ça, alors bien sûr, le monde sera encore plus grand, apparemment. Mais le personnage, le héros, serait une femme, et pour une fois. Parce que on parlait des trois personnages du 5, mais il y a même pas, il y a peut-être un chien dedans, mais c'est tout. Pour l'instant, c'est que à chaque fois, c'est toujours un homme le héros du jeu.
Ça ferait pas de mal de changer, effectivement. Je pense qu'on aura un Elder Scroll 6 avant le GTA 6.
Ah, le concours.
À voir.
Ah, je préférais le Elder Scroll quand même, faut avouer.
C'est un univers différent, mais.
Ouais.
Voilà, je sais pas où est-ce qu'on peut faire une pétition pour mon GTA 1 en HD, donc.
Il n'y a même pas besoin de HD, tel quel, c'est bon. Je suis sûr qu'il doit même tourner sur téléphone. Parce que GTA 3 tournait sur les. Il était sorti sur mobile, sur Android en tout cas, je pense que sur iPhone aussi. Et il tournait en 3D, c'était vraiment la même version. Mais c'est vrai que le 1 n'est pas encore. À mon avis, ça a été un problème de droit, quelque chose comme ça.
On peut s'écouter un peu de Borderlands 2 avec le fameux thème.
Yeah.
Alors, on était sur l'agenda, mine de rien. Il y a les Summer Game Fest de 2020.
C'est déjà commencé, hein, puisque c'est tous les ans en mai, juin, juillet, août. Il y a des événements, alors c'est pas tous les jours, il y a des événements réguliers, quoi. Mais donc cette année, effectivement, les autres gros salons, alors le 3 a été annulé, la Gamescom a été annulée, la Paris Games Week qui devait avoir lieu en octobre aussi n'aura pas non plus lieu en 2020, donc c'est pas mal. Même on avait parlé d'un E3 online, en version online, mais même celui-là a été annulé apparemment. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont reportées sur le fameux Summer Game Festival.
Il y a la BlizzCon aussi qui a dû se terminer.
Non, c'est annulé aussi la BlizzCon, il n'y a pas de BlizzCon. Ouais. Mais par exemple Blizzard sera, enfin, tous les gros éditeurs de toute façon présenteront leurs nouveautés, etc. pendant le Summer Game Festival. Donc il y aura tout le monde, hein, Activision, Blizzard, Bethesda, Electronic Arts, enfin tout le monde sera là-bas, Square Enix, tout le monde sera là-bas, façon de parler virtuellement bien sûr, mais...
Le plus attendu ce sera quand même CD Projekt avec Cyberpunk, quoi, faut avouer.
Là, par exemple, donc, des dates qu'on peut donner, par exemple, le 11 juin, on a Electronic Arts qui va... Alors, il n'y a pas d'heure, hein, pour l'instant, c'est sur le site donc, du Summer Game Festival. Il y aura Electronic Arts qui va présenter ses futurs projets. Il y a un événement aussi, qui va parler de Cyberpunk 2077 aussi, mais on n'a pas de détails. Et entre le 9 et le 14 juin, il y a le Steam Game Festival. Donc, sur Steam, apparemment, on pourra déjà jouer au prochain jeu, au jeu PC sur Steam. Il y aura sans doute des démos, peut-être des versions où on pourra jouer gratuitement pendant des quelques heures ou quelques jours, et ça sera l'occasion de tester les futurs jeux.
Est-ce que c'est le retour de la démo qui avait complètement été oubliée depuis plusieurs années sur la majorité
oui,
des jeux?
Oui, non, ça existe encore. Si vous avez un compte Steam, de temps en temps, sur des jeux qui sont préannoncés, vous avez toujours la possibilité, certains éditeurs le font, de télécharger une version gratuite, ce qu'on appelait une démo du jeu, ce qui des fois prend aussi autant de place sur le disque dur que le jeu complet. C'est une version de début qui permet de tester un peu le jeu, de faire une idée avant de l'acheter ou pas, éventuellement.
Si on revient, et on va faire d'ailleurs du rétro gaming dans quelques instants, mais à l'époque, quasiment tous les jeux avaient leur version démo sur lequel on pouvait tester. Et on achetait ça dans des magazines avec la petite disquette avec plusieurs jeux à tester qui nous permettaient de choisir. Maintenant, ça a quand même été remplacé par les youtubeurs ou les Twitch.
T'as pas mal d'OPSP, comme on dit, ou les youtubeurs ou les streamers sur Twitch font énormément de contenus divers et variés et te permettent de voir un peu de gameplay, des jeux, voire même des fois d'applications numériques. Et donc, t'as de quoi voir si le jeu est intéressant, ne serait-ce que pour toi, quoi.
Et souvent, ils récupèrent une version avant même la sortie pour pouvoir faire leur test. Et
les éditeurs leur envoient une version du jeu, une clé, comme on dit maintenant. Et c'est leur risque et péril, là, parce que t'as certains youtubeurs qui disent « Ok, merci de m'avoir envoyé le jeu, mais je sais pas si c'est une bonne idée. » Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi.
Ouais, mais il y a un watermark avec le nom du gars au bout d'un moment.
Non, c'est pas pour qu'ils la donnent, qu'ils l'abordent, mais c'est souvent, ils testent le jeu, puis des fois, ils trouvent des bugs, etc. Enfin, ils se marrent, ils s'amusent. Ils se contentent pas de tester le jeu, ils essaient de trouver des petits bugs, etc. Ou des fois, ils en disent ce qu'ils en pensent. Si le jeu est bugué ou pas fini, hein, c'est au risque de l'éditeur.
Et c'est à la liberté du youtubeur de décider si il annonce qu'il est sponsorisé ou non.
C'est une obligation légale. En tout cas, en France, c'est une obligation légale. Tu dois dire que tu fais une opération, une OPSP, que tu es rémunéré et ça doit être marqué dans la description et dans le titre de ta vidéo. C'est obligé. C'est la loi.
Ça veut pas dire que le youtubeur ne va pas dire du mal du jeu. Hein.
Ouais. Sauf s'il est lié sous contrat, mais ça, il l'annonce aussi en début de vidéo.
Alors, j'ai annoncé du rétro gaming et je vous propose de parler d'un événement qui rentre très bien dans l'agenda. C'est l'anniversaire de Pac-Man qui va fêter les 40 ans d'existence cette année. Et non seulement il fête son anniversaire, mais il y a également Nvidia qui a voulu tester son intelligence artificielle d'une façon qu'on a assez peu l'habitude, puisque d'habitude on utilise les DeepMind pour essayer de jouer à certains jeux.
Et d'humilier les joueurs humains. C'est
bon. Qui est assez facile.
Souvent c'est facile, ça dépend des jeux. Avec Pac-Man, Pac-Man c'est un jeu qui joue en solo, donc tu peux pas vraiment jouer contre l'humain. Mais là, ce que c'est amusé, façon de parler à Nvidia, c'est qu'ils ont pris leur intelligence artificielle et ils lui ont fait regarder des parties de Pac-Man. Ils lui ont fait regarder 50 000 parties de Pac-Man sans lui dire ce que c'était en fait. Sans lui dire, je sais pas comment tu parlais d'une intelligence artificielle, mais bon. Sans lui dire, tiens, regarde ça. Et ils lui ont demandé de recréer un jeu, en fait. Et l'intelligence artificielle a été capable de recréer le jeu, les mécanismes, etc. Rien qu'en regardant des parties. J'avoue, c'est bluffant.
Sachant qu'ils n'ont délivré aucune partie du code du jeu Pac-Man, ni aucune instruction à comment est-ce que le jeu se joue, quel est le héros, comment est-ce qu'il meurt, etc.
En fait, c'est ça.
C'est comme si... tout recodé derrière.
C'est comme si tu prenais un programmeur humain, tu lui montres un jeu vidéo sur YouTube, sans lui expliquer les règles, ni rien, quoi que ce soit, et tu lui dis, bah vas-y, refais le jeu de façon jouable, pour qu'il soit jouable. Et effectivement, quand tu prends le jeu qui a été créé par l'intelligence artificielle de Nvidia, tu peux y jouer et tu retrouves, j'imagine, les sensations du jeu original.
Alors, il a fallu quand même qu'il regarde plus de 50 000 parties différentes de Pac-Man.
Un robot peut les regarder en accéléré, quoi. Ça va. Il peut même regarder les 50 000 en même temps, je pense. Ça, c'est très fort.
Et également pour les 40 ans, Pac-Man va être décliné également au Tamagotchi. Voilà, pour ramener du rétro avec un peu plus de rétro.
Je crois que les Tamagotchi sont plus jeunes, plus récents que Pac-Man quand même, je crois. Ça doit avoir une trentaine d'années, le Tamagotchi. Mais oui, il y a plein d'événements, parce que Pac-Man, dans tous les mondes des développeurs, chez tous les éditeurs, t'as des développeurs qui, leur premier jeu vidéo, j'imagine qu'il y en a plein qui sont lancés dans le monde du jeu vidéo parce qu'un jour, dans un café ou une salle d'arcade, ils ont joué à Pac-Man à ces jeux-là, quoi. Par contre, il y aura aussi Bandai Namco, c'était l'éditeur, et Amazon ont annoncé un jeu qui va s'appeler Pac-Man Live Studio, qui va permettre de jouer en multijoueur à Pac-Man, mais aussi de créer ses propres niveaux et de les partager. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'infos. Apparemment, il y aura juste une page Twitch. Il n'y aura pas de téléchargement ni quoi que ce soit. Donc est-ce que ça sera sur le web? Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'informations. Donc c'est à surveiller. Pac-Man Live Studio. Tu pourras peut-être faire ton GTA justement avec le Pac-Man Live Studio. On ne sait pas. C'est vrai que quand tu réfléchis, GTA, il y a des moments où il y a un petit côté Pac-Man, parce que t'as ton personnage qui court dans les rues et qui est poursuivi par des
clans différents.
Il y a un petit côté Pac-Man poursuivi par des fantômes, donc...
Chaque couleur de fantôme, c'est un clan différent dans...
Exactement. Bon, en fait, c'est ça, GTA, c'est juste un GTA amélioré, quoi. C'est tout pourri.
Ouais, voilà. T'auras beaucoup plus de fantômes dans ton Pac-Man que dans le Pac-Man original, mais c'est pas grave.
Bah, oui, GTA aussi, oui. GTA, ouais. Même GTA 5, c'est quoi? C'est Pac-Man en 3D, un peu amélioré, c'est tout. Avec des flingues.
Ça m'étonne qu'ils n'ont pas sorti une version VR, par exemple, de Pac-Man.
Aussi,
mais
ça doit forcément...
Ça tombe en cherchant bien.
Si, c'était l'ancien écran de veille de Windows... Quand tu te baladais dans le labyrinthe.
C'est ça.
Mais si on revient, hein, les 40 ans, le créateur de Pac-Man est japonais. Il s'appelle Toru Iwatani. Et à la base, un peu son idée, c'était d'avoir un jeu, contrairement à la majorité des jeux qui sortaient à l'époque, qui pouvaient être des shooters ou autres, c'était d'avoir un jeu pour tout le monde, un peu que ce soit pour les garçons, mais également pour les filles. Et l'idée du Pac-Man lui est venue d'une pizza où il avait juste coupé une part. Ce qui est étonnant, c'est que dès que le jeu est sorti, il a vraiment eu un carton au niveau international. Et ce qui a permis de développer un peu une franchise et beaucoup de produits dérivés. À mon avis, Toru Iwatani doit avoir une sacrée collection d'objets à l'icône de Pac-Man. On parle encore de rétro gaming, mais alors cette fois-ci, on va quitter l'univers du jeu vidéo. Nous allons partir dans le monde des billes, avec un univers complètement passionnant que, Dominique, tu as trouvé au hasard de vidéos YouTube, je suppose.
C'est exactement ça. Je suis tombé par hasard sur la chaîne de deux frères hollandais qui s'amusent à jouer aux billes. Bon, ça, c'est pas nouveau, il y a plein de gens sur YouTube qui mettent des parties de billes, sauf que là, ces mecs-là sont à fond dedans, ils font des compétitions. Alors, les compétitions de billes, ça existe depuis toujours, hein, des gens qui font... Mais je suis tombé sur des vidéos faites par ces gens qui recréent, comme en ce moment, avec le confinement, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de compétition, même si ça reprend tout doucement. Les Jeux Olympiques, tout ça, toutes les compétitions sont repoussées. Ils s'amusent à faire des vidéos où ils présentent des compétitions avec des équipes façon Jeux Olympiques, dans des stades, etc. Sauf que c'est des équipes de billes.
Et alors, ça a l'air assez basique comme ça, mais c'est filmé tout d'abord comme une vraie compétition avec un public de billes, forcément.
Ben oui, forcément.
Et il y a des commentaires. Alors, ici, ce sont bien sûr des commentaires en anglais, puisque les joueurs sont quand même les organisateurs, les créateurs sont aux Pays-Bas. mais le texte est fait en anglais et ça sonne exactement comme une vraie compétition, que ce soit de voiture. Moi, ça m'a fait penser un peu à ces compétitions de voiture, de stunt car, où on se pousse un peu avec une voix entraînante de commentateur. On est vraiment dans cet univers-là. Donc, les billes commencent sur un starting block. Elles se lancent et chaque bille ou chaque équipe a plus ou moins son histoire qui est racontée également durant ces vidéos.
En fait, alors le commentateur, lui, s'appelle Greg Woods et c'est un type qui est commentateur de compétition de billes. Ça fait bizarre comme truc, mais depuis trop longtemps, quoi. Il avait créé sa propre ligue, la Marble League, c'est un Américain, en 2004. Et il faisait des compétitions entre billes et avec des vraies équipes, etc. Et le mec était tellement à fond dedans qu'il avait créé. Alors il prenait des billes de plusieurs couleurs. Des jaunes, des oranges, etc. Il leur donnait des noms, mais il donnait pas juste des noms aux équipes. Par exemple, les jaunes, c'était les limes, enfin, l'équipe citron, par exemple. Les oranges, c'était l'équipe citron, et chaque fois, ils faisaient des jeux de noms. Et il leur donnait des noms, comme les équipes de foot américain, de baseball, etc. Il trouvait toujours des noms. Et le pire, c'est qu'il donnait même des noms à chaque bille individuellement. Mais c'est un truc qui s'est super bien développé. Alors, il y a des sponsors. Ils faisaient des vidéos, il y avait des sponsors, il se faisait sponsoriser ses vidéos et compagnie. Mais il y a des gens qui suivaient, il y a des fans, il y avait des forums où les gens s'engueulaient sur les équipes, etc. Il inventait des compétitions de folie. C'est pas juste des courses de billes où tu pousses ta bille, comme on jouait quand on était petit. Il invente des trucs qui sont vraiment cinématographiques, quoi. Il refait des vidéos. Il y a même des Jeux Olympiques, enfin des Marble Olympics, pardon, d'hiver. Il y a des Marble Olympics dans l'eau. C'est impressionnant.
En plus, sur un YouTube, tu vois, parce que c'est les circuits de billes, tu peux les avoir soit dans la nature où tu creuses le terrain et tu lâches les billes, et puis sur une pente, et tu vois, en fonction du circuit que tu as tracé, laquelle t'arrive le premier, ou d'autres, c'est juste des circuits de billes construits par, entre guillemets, les jeux d'enfants qu'on peut trouver n'importe où, donc ça s'appelle juste Marble Race ou circuit de billes en bois, en plastique. Et certains en font des géants avec des raccourcis et lâchent les billes tout en haut en disant laquelle va arriver la première, et les quatre premières sont comment dirais-je, sélectionnées pour la manche suivante, petit à petit, jusqu'à temps d'arriver à avoir la bille vainqueuse.
Oui, c'est ça, les vidéos font... vidéos qui font 20-30 minutes, et à chaque fois, en fait, il y a des qualifications. Mais la façon dont tu commentes, François, tu vas pouvoir nous mettre un exemple, un extrait de commentaire, mais c'est super addictif, quoi. Origin in second place, Nemo, trying to get a little run here, gets the speed boost, rapidly trying to hold off Pulsar back behind, a great move there from Snowflake to jump up into seventh place. Right there. Oh, and a nudge off the wall sends Orange going backwards from Nemo. Il y a même des moments où il imagine des supporters qui s'engueulent parce qu'il y a une bille qui a poussé une autre hors du circuit. Donc t'as les supporters qui se battent dans les gradins. Il fait des animations stop motion où t'as les billes qui se tapent dessus, elles sont éjectées. Et c'est génial parce que tu suis vraiment les billes. Enfin, il y a des retours, il y a du suspense. C'est vraiment c'est trop fort, quoi. Il fait ça depuis 2004. Bon, il faisait ça pour s'amuser, mais il y a des moments où ça fait un peu moins de succès. Et en fait, en 2014, il a rencontré les deux frères Jell et Dion Baker, qui sont néerlandais, et eux qui jouent aux billes, qui font des vidéos sur YouTube aussi, qui font des concours, des records des billes, un petit peu à la façon des fameux records de domino. Ils font des vidéos qui ont beaucoup de succès, et ils ont travaillé ensemble pour mettre en place ces vidéos qui ont beaucoup de succès, surtout en ce moment où il n'y a pas de compétition. Ils se demandent même si, quand le sport officiel va reprendre après le déconfinement, etc., s'ils ne vont pas risquer d'avoir un petit peu moins de succès. Mais c'est depuis quelques semaines, quelques mois, ces vidéos de billes, de compétition de billes, ont un succès énorme, et les commentaires sont légion, quoi. C'est vraiment impressionnant.
Alors, pour retrouver les vidéos de billes, hein, il suffit de se rendre sur le site YouTube Jels, donc J-E-2-L-E-S Marble Runs. Marble est en bille.
On peut y voir les vidéos des compétitions, on peut y voir des vidéos faites par les deux frères qui sont aussi, parce qu'ils font pas que des vidéos de compétition ou de record, ils font aussi ce qu'on appelle des machines, je sais pas comment appeler ça, mais des œuvres d'art qui sont des fois assez massives, où tu as des milliers, des dizaines de milliers de billes qui sont en mouvement perpétuel avec des billes qui font des circuits, etc. Enfin, c'est très joli à voir. En plus, c'est assez fascinant. Tu peux regarder ça pendant assez longtemps. Et il y a des œuvres qui ont été exposées dans des villes à travers le monde. C'est vraiment superbe à voir.
Alors, au-dessus de ces vidéos, au-dessus de ces commentaires, il y a également de la musique.
Il y a plusieurs compositeurs qui ont fait des musiques pour animer, pour illustrer un petit peu les vidéos et les commentaires.
Je vous propose d'écouter une musique de Minos Pylaktos pour justement ces compétitions de billes. Et là, c'était pour l'édition de 2016 pour la Marble World. On va quitter l'univers des billes et cette fois-ci, on va repartir. Alors t'inquiète, hein, ça va quand même envoyer. C'est quelque chose qu'on a partagé récemment puisqu'il va y avoir une nouvelle édition de Serious Sam, ce fameux jeu qui nous a fait passer des heures devant l'écran lors de sa sortie. Ça vous rappelle, je pense, des souvenirs massifs, que ce soit au niveau des tirs qu'on a pu envoyer ou des monstres qu'on a pu dégommer à l'époque. C'est vrai que Serious Sam était un des seuls jeux. Alors, qu'est-ce que Serious Sam tout d'abord ? C'est un FPS, donc vous êtes en première personne avec plusieurs fusils, puisque là, c'est très important, il y en a beaucoup.
Quand tu commences, t'as juste un pistolet, je crois.
Et petit à petit, tu vas récupérer des armes de plus en plus puissantes. On avait également la possibilité de jouer à plusieurs, ce qui a donné vraiment un goût très particulier au jeu. Et tout était basé... Alors, à l'époque, on jouait dans le désert, hein. C'était un peu
des pharaoniques. Alors, le héros s'appelle Sam, c'est Sam Stone, et il est envoyé dans l'Égypte ancienne pour combattre une invasion extraterrestre. Ça, c'est du scénario, ça. Et le premier sorti... Alors, Serious Sam First Contact, donc premier contact, est sorti en 2001. Le 2 est sorti en 2002. Pour le 3, il a fallu attendre bien après 2003, hein, je vous rassure. Je crois qu'il est sorti qu'en 2011, hein, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était vraiment le principe. C'était développé par Croteam, c'est une boîte de Croates. Je crois que c'est le seul jeu qu'ils ont fait, pratiquement. Enfin, avec du succès, on va dire. Mais effectivement, ce qui nous a amusé dès le début, c'est que tu pouvais régler la difficulté du jeu. Et dans tous les paramètres de la partie que tu lançais, tu pouvais choisir le nombre d'ennemis. Et le nombre de munitions que tu avais, etc. Et tu pouvais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. C'est-à-dire que t'avais pas juste 2-3 squelettes qui venaient vers toi, mais tu pouvais en avoir 3, puis 10, puis qui vint depuis des centaines et des milliers, je sais plus. C'était le principe de ce jeu. De toute façon, ce qui caractérisait Serious Sam et tous les Serious Sam, c'est que tu passes plus de temps avec ton personnage à reculer qu'à avancer, contrairement à d'autres jeux.
C'est ça, tu recharges plus que la moyenne.
T'es toujours en train de reculer avec ton arme qui tire et on mettait vite fait les balles infinies parce que sinon on s'en sortait pas.
Dans le Serious Sam aussi, c'était qui différenciait des FPS de l'époque, c'était ça se prenait pas la tête, t'avais les commentaires très humoristiques, des situations, je vais pas dire aberrantes, mais rigolotes à souhait, un nombre de secrets à trouver qui est phénoménal par niveau. Enfin, c'est tu pouvais rester très longtemps dans un niveau pour trouver les secrets, ou des fois il suffit juste de tirer sur une cheminée pour faire sortir le Père Noël. Enfin, c'était vraiment vraiment des jeux très plaisants.
Très défoulé. Ça tournait sur toutes les machines et on pouvait jouer avec des ordinateurs. Je crois qu'il est sorti que sur PC. Hein, oui. Les suivants sont sortis sur console. Et où le premier est ressorti plus tard, en plus ils ont ressorti des versions HD, ils ont ressorti des versions VR sur console. Et oui. Le principe c'est que tu pouvais jouer donc à plusieurs, avec chacun sur sa machine, mais sur la même machine, sur le même PC, tu pouvais jouer en split screen, tu pouvais diviser l'écran et tu pouvais jouer à 4 par machine, ce qui fait que si tu avais 4 ordinateurs avec 4 joueurs par, tu pouvais jouer à 16 sur la même partie. Et plus il y avait de joueurs, plus il y avait de monstres, donc je ne vois. On passait des heures à tuer des monstres sans même finir le niveau parce que c'était terrible quoi. Les niveaux étaient immenses, les monstres étaient parfois immenses. Et on courait chacun dans notre sens, et c'était n'importe quoi. Je me souviens particulièrement qu'il y avait une arme qui était assez sympa, c'était le lance-missile. Les niveaux étaient tellement grands, les monstres étaient tellement loin, que tu allais à un bout de la carte, tu tirais un missile, et tu voyais plus ton missile arriver. Je crois qu'une demi-heure après, il arrivait à l'autre bout de la carte, tellement les mondes étaient immenses.
On se souvient des taureaux qui chargent ou des kamikazes avec leur tête en forme de bombe.
Je vous rassure, dans le 4, donc Croteam a mis sur les réseaux sociaux une vidéo, un petit teaser pour le prochain niveau. Et la première chose qu'on entend dans la vidéo, c'est les fameux kamikazes sans tête qui crient. Alors comment est-ce qu'un kamikaze qui n'a pas de tête peut crier ? Faut jouer au jeu pour comprendre.
C'est ça. Et là, il pourra avoir jusqu'à 100 000 monstres sur une partie, ça va être assez impressionnant. Alors, on a parlé, je pense, hein, lorsqu'on parlait de Serious Sam, là, on a parlé surtout du 1 et du 2. Le 3 avait quand même penché en sortant un peu de ce monde désertique et sablé. C'est vrai qu'il a peut-être eu moins de succès, même s'il a été joué quand même beaucoup.
Quand il y a un 2 ou un 3 qui sort d'un jeu, ça me donne envie de rejouer au premier, mais pas de jouer au suivant.
En plus, ouais. Là, t'avais on parle du 1 qui était le First Contact, mais t'as eu entre le 1 et le 2, t'as eu le Serious Sam Second Contact, qui était vraiment pas mal aussi.
C'était très compliqué, alors, les sorties, parce qu'il y a eu Serious Sam Premier Contact, Serious Sam Deuxième Contact, qui n'est pas Serious Sam 2. Parce que Serious Sam 2 est sorti plus tard. Oh, c'était compliqué.
On promet du août 2020 pour la sortie de Serious Sam 4.
Ça me donne envie de rejouer au premier, c'est tout.
Bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de GTA V et de est-ce qu'on y rejouerait ou autre comme ça. Je préfère encore faire des bonnes soirées entre potes sur du Serious Sam multi que de lancer un GTA. Clairement.
Là, tu vas t'amuser sur Serious Sam. Tu vas t'amuser et tu vas rire. Parce que tu le feras pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parties de rigolade sur un GTA V. Sauf quand il se passe des actions forcément farfelues. Mais bon, ça sera plus du petit PVP. Alors que là, c'est de la coopération complètement stupide et hallucinante. Ce serait une bonne définition.
Coopération, c'est vite dit, hein, parce que quand tu déclenches une horde pour pouvoir progresser dans le niveau et que toi, tu te barres et que tu laisses ton coéquipier en face en disant « démerde-toi
». Ça dépend si dans les options, tu avais activé le friendly fire ou pas aussi. Tout est...
Voilà.
Et faut noter que ils utilisaient un moteur qu'ils avaient un moteur 3D qu'ils avaient développé eux-mêmes, ce qui s'appelait le Serious Engine. Et en fait, Serious Sam, le jeu, devait pas être un jeu au départ. C'était juste une démonstration pour montrer aux éditeurs. En fait, ils avaient créé le moteur de jeu. Ils ont fait un petit jeu comme ça, Serious Sam, façon de parler, pour montrer comment utiliser leur moteur 3D. Ils l'ont sorti comme jeu parce que ça a eu un énorme succès. Et avec le jeu, d'ailleurs, il y avait un éditeur qui était intégré. On pouvait créer ses propres niveaux et ça avait intéressé beaucoup de gens. Je sais pas s'il y a d'autres jeux qui ont utilisé leur moteur de jeu, mais en tout cas leur jeu tel quel a eu beaucoup de succès quoi.
Bah, je confirme, on avait déjà parlé, le créateur de niveau permettait de mettre de magnifiques textures, l'environnement était vraiment vraiment très beau à l'époque, et c'était plaisant de faire des petites maps et de mettre plein de monstres pour que ses amis viennent les taper avec vous. On pourrait s'écouter, tiens, une petite musique de Serious Sam, un peu rock ici, on va partir.
Absolument.
Dans
ouais, parce que ils avaient fait appel à un groupe de heavy metal croate qui s'appelle Undercut pour faire les musiques d'ambiance du jeu.
Et là, on va partir sur le troisième opus. Wow. Vous êtes toujours avec nous sur Radio Campus 106.6 dans l'émission Heureusement en France. Et avant de laisser la main à l'écho des gnous pour parler de logiciels libres, je vous propose de terminer l'émission avec quelques petites news que nous avons chopées de droite à gauche, et notamment la sortie d'un livre qui fait référence à un grand film qu'on adore, je pense. Hein.
C'est culte. C'est difficile de trouver un autre terme que culte pour ce film. Ce film, pardon.
Je crois que c'est un des rares films où quand tu lances, même pour te retrouver une petite phrase qui est dit, un dialogue, bah après tu le laisses et tu finis de regarder.
En fait, tu regardes tout.
Voilà.
Alors, pour remettre un peu l'histoire, c'est pour l'anniversaire de la Warner Bros. Que Canal Plus récupère des droits pour utiliser des séquences de films de Warner Bros. Et décide de faire un film.
Un film, pardon.
En regroupant des séquences de plusieurs films de Warner Bros. Et de refaire complètement les voix. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce projet, notamment je pense Alain Chabat.
Ils ont fait appel à des comédiens, quoi, et des humoristes, mais aussi aux doubleurs officiels. Par exemple, il y a John Wayne dedans, et c'est le doubleur de John Wayne qui fait la voix.
Et ce qui est magique dans ce film, c'est que les voix se calent vraiment avec les mouvements de bouche, même mieux que sur les vrais films où on s'occupait juste à traduire. Là, on regardait un peu le mouvement des voix et on sortait une phrase qui était complètement extraordinaire. Alors,
ils n'avaient pas vraiment eu les droits auprès de Warner, parce qu'on voit même le logo Warner dans le film, mais ils avaient eu une entente un peu tacite en disant « Ok, on va utiliser le truc, mais on promet, ils s'étaient engagés à pas faire trop de conneries, dire trop de conneries, ou à les mettre dans John Wayne, tu vas pas le voir tout nu, ou avoir certains propos, etc. » Enfin, ils s'étaient engagés à respecter un petit peu les comédiens.
Il se fait quand même traiter de fasciste de merde dans le film. Mais bon, dans ce bouquin, on aura forcément le script, hein, ce fameux script qui
est tous les dialogues.
Et qu'est-ce qu'on va trouver donc en plus du script complet?
Il y a tous les dialogues du film, les fameuses répliques cultes, mais il y a aussi, puisque donc le film était réalisé par Michel Adamisius et Dominique Meseret, mais Dominique Meseret, il est mort il y a quelques années, et il était dessinateur et il avait fait des illustrations originales pour le film. Et on peut les retrouver également dans... Alors le livre ne coûte, il est sorti en librairie jeudi, 160 pages pour 10 euros, et les éditions, c'est l'édition Alary Édition, donc chez toutes les bonnes librairies. Maintenant que c'est réouvert, on peut y aller, surtout pas sur Amazon.
Et on va en profiter également pour rappeler ce site qui permet de lancer des phrases sorties du Grand Détournement lorsque vous êtes voilà, au bureau ou à la maison, ça peut toujours servir. C'est sur le site Wish.
Wish, à cause des Wish Lorraine, mais il faut regarder le film pour comprendre, donc c'est Wish, O-U-I-C-H.
Et le film, bien sûr, La Classe Américaine, a noté le Grand Détournement, est visible et disponible sur YouTube avec même sa version HD. Si vous ne l'avez jamais regardé et que vous aimez ces vieux films et que vous voulez leur donner une nouvelle vie comique, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, avant de clôturer l'émission, Dominique, tu voulais nous transporter un peu dans ce qui est à la mode en ce moment sur Internet. C'est la théorie du complot.
Ah oui, à propos de toutes les théories existent à propos du coronavirus, mais moi, j'ai peut-être la solution. Alors pour ça, par contre, je vais vous poser des questions, et en fonction de ces questions, on va voir si ma théorie tient le coup ou pas. Donc j'ai 10 questions que je vais vous poser, je vais en poser 5 à Reynald et 5 à François, il faut juste que je choisisse les bonnes à qui poser. François, la personne dans laquelle, à qui tu fais le plus confiance?
Moi-même.
Bon, je quitte le studio. Au revoir.
Toi-même, ok.
Ça marche, hein.
Je vais mettre François, quoi. Reynald, la personnalité puissante qui te ressemble le moins?
Donald Trump.
Pas mal, pas mal.
On a plein de news sur Donald Trump, d'ailleurs. Bon, la prochaine fois.
Non, mais il est mort, il a bu de la Javel pour se protéger du coronavirus.
Ah, oui. Il était trop occupé à tweeter, il a pas vu ce qu'il était en train de boire.
François, le nom de ton premier animal de compagnie?
Snoopette.
Ça va finir en titre de film porno.
Le pire, c'est que je le savais en plus. Reynald, ta société secrète préférée?
Au hasard, je vais dire les Illuminati.
On va se faire des ennemis, hein.
Non, mais on est déjà survie avec ce qu'on vient de dire. On est sous écoute.
T'aurais pu dire Anonymous, là, on serait...
François, une habitude que tu trouves détestable?
Les gens qui roulent à 30 quand c'est 50.
Ah, ouais, la conduite lente, on va dire.
Et je vais dénoncer personne.
Non.
Mais on en connaît.
Reynald, un événement qui t'a choqué dans l'histoire?
La Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle vient juste après la Première et c'est aberrant qu'elle ait eu lieu.
François, la partie de ton corps que tu préfères? Heureusement, je ne l'ai pas proposé à Reynald, celle-là.
Mon cerveau.
Quoi? Non, mes fesses.
Reynald, l'objet qui est à ta droite. Si tu regardes à ta droite, qu'est-ce que tu vois comme objet?
Une bouteille d'eau.
Pas mal.
Genre...
C'est vrai en plus.
C'est noté. François, un lieu où personne ne voudrait aller?
Je dirais sur les traces d'une bombe atomique qui vient d'exploser.
Ah ouais, sous une bombe atomique. Hein. Dans une explosion atomique, en fait.
Voilà, oui.
Et enfin, Reynald, ta personnalité préférée quand tu avais 12 ans?
Est-ce que mes souvenirs vont jusque-là? Diantre, 12 ans.
Je parlais de bombe atomique, dit Jacques Chirac.
Ah, ils sont fous, Jacques Chirac. À 12 ans, je courais après les filles et j'étais dans le vélo dans le parc, quoi, donc je me donnais à foutre.
Ok, maintenant que j'ai toutes vos réponses, je peux enfin confirmer la théorie. Ce que les autorités ne veulent pas vous révéler. Je tiens l'information de François, qui est une source fiable, s'il en est, n'est-ce pas? Un spécialiste de la virologie et compagnie. Pour expliquer la pandémie du coronavirus, il faut d'abord réaliser que tout est contrôlé par Donald Trump. Également connu sous le nom de Snoopette. Donald Trump, ou Snoopette, c'est le maître suprême de la société secrète des Illuminati, qui est connu pour leur conduite très lente et leur adoration de Satan. D'ailleurs, ce groupe est également responsable de nombreux événements à travers l'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ses membres sont partout. On les reconnaît notamment grâce à leurs fesses. Ils contrôlent chacun de nos gestes grâce à leurs espions. Sur les réseaux sociaux, ils veulent tuer la population à l'aide des bouteilles d'eau et faire disparaître tous les lanceurs d'alerte et les chasseurs de vérité dans une explosion atomique.
Oui.
Réveillez-vous les gens, il n'y a que Jacques Chirac qui va pouvoir nous sauver.
On est mal barré.
On n'est pas dans la merde. Monde de merde.
Voilà, sur ces belles paroles, j'espère que nous n'avons pas créé une nouvelle théorie du complot. Nous allons vous laisser et vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Heureusement en France. Tout de suite, l'écho des gnous et forcément, on a parlé de Pac-Man. Comment ne pas passer la chanson de Pac-Man qui date de 1985.
Chanté par William Lemergis, s'il vous plaît.
Voilà, c'est notre cadeau pour le logiciel libre, parce qu'on n'avait rien d'autre, on n'avait pas de monnaie. Allez, à ciao, à la prochaine, salut.
À plus.
Jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une Pac gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Inky, Pinky, Clyde et Mademoiselle Sourd sont des fantômes pas gentils du tout. Ils ont pour maître le méchant grippin. Mais Pac-Man, Pac-Man s'en sort toujours, toujours très bien. Rond comme un ballon, il plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il ne craint personne, pas même les méchants fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Plus fort qu'un géant, même s'il n'est pas très grand, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il est courageux et il n'a pas froid aux yeux, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Ça porte bonheur. Il est en danger, mais il est toujours prêt. Vite une patte d'homme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison. Ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une pack d'hommes, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Oh, monde de merde.